Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, elle recouvre les trois quarts de notre Terre, elle est essentielle à tous les organismes vivants. Les premières formes de vie sont d'ailleurs apparues il y a de ça 3,5 milliards d'années. Je veux bien sûr parler de l'eau. Alors aujourd'hui, de vraies questions se posent concernant la consommation raisonnée de cet élément primordial à notre survie. Pendant combien de temps notre eau du robinet sera-t-elle potable? Devrons-nous rationner cette eau dans les années à venir? La France devra-t-elle aussi dessaler une partie de l'eau de mer pour subvenir à ses besoins? Y aura-t-il assez d'eau pour tout le monde? Depuis février 2006, Nelly Olin, ministre de l'écologie, a annoncé une campagne de sensibilisation qui interpelle l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient industriels, que ce soit les collectivités locales ou que ce soit les particuliers. Des lois devraient être mises en place pour inciter à économiser cette ressource. Alors avec nous, pour nous éclairer sur ce sujet, Guilain de Marcilly, ingénieur, docteur S sciences et spécialiste en hydrologie. Guilain de Marcilly, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous travaillez tant sur les problèmes de ressources en eau que sur la pollution des nappes, je crois bien.
Oui.
Et nous évoquerons donc avec vous le problème de l'approvisionnement des nappes phréatiques, de leur pollution. Et puis également, nous accorderons une large partie de cet éclairage à votre rapport, le rapport que vous avez pu animer sur les eaux continentales. Vous travaillez encore dessus, je crois, et vous avez avec vous une équipe. Vous ne travaillez pas tout seul sur ce rapport.
Oui, en effet, c'est un rapport que nous appelons le rapport RST, rapport sur la science et la technologie de l'Académie des sciences. Un rapport sur lequel nous travaillons avec un groupe qui a été mis en place depuis environ 2 ans et qui doit paraître, je dirais avant l'été, aux éditions d'Académie pour rendre compte des travaux que nous avons fait ensemble. Nous étions à peu près une douzaine à travailler sur l'écriture de ce rapport.
Ici, on aura la primeur d'en avoir quelques petits bouts. En tout cas, vous allez pouvoir nous expliquer ce sur quoi vous avez travaillé et quelles ont été vos découvertes.
Alors, ce rapport s'appelle donc « Les eaux continentales » et la motivation de ce rapport, c'est de dire, finalement, à l'échelle de la planète, dans les 50 ans qui viennent, est-ce qu'il y a un problème de l'eau? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour essayer, s'il y en a un, de s'en prémunir, d'empêcher qu'une crise ne se produise? Et donc de poser la question, où va-t-on au niveau de la planète? Bien sûr concernant la France en particulier, mais au niveau de la planète, dans les besoins en eau et la possibilité de satisfaire aux besoins ou aux risques que font courir aux populations les eaux, par exemple en crue.
Votre question c'est, est-ce qu'il y a un problème de l'eau? C'est une question simple. Nous, simples citoyens, on pourrait dire, ben oui, voyons, il y a un problème d'eau, il y a des arrêtés préfectoraux, c'est la sécheresse. Et vous, vous dites, non, pas forcément en fait.
Alors nous avons essayé d'aborder ce problème en regardant 2 causes que nous avions considérées comme majeures d'initiation d'une crise, d'une difficulté. C'est d'une part les changements climatiques, donc par exemple sécheresse, ce dont vous parlez, et puis d'autre part l'augmentation démographique qui fait qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète à avoir besoin d'eau. Donc nous avons regardé ces 2 problèmes et nous avons essayé de voir d'abord lequel des 2 est le dominant.
Sur l'aspect des changements climatiques, vous abordiez les sécheresses, mais il y a aussi les crues. Ça peut être dans les 2 sens.
Absolument. Les changements climatiques, c'est la partie la plus difficile de cette étude. Parce que malheureusement, autant il est à peu près établi que les changements climatiques conduisent à une augmentation de la température de la Terre, température globale ou température locale, autant les effets de cette augmentation de température sur les précipitations sont difficiles à préciser et relativement mal connus. De façon globale, il semble que cette augmentation de température engendre une augmentation de l'évaporation sur les océans et même sur les continents, donc un peu plus d'eau dans le cycle de l'eau. Donc la machine hydraulique...
En fait, vous voulez dire que plus il fait chaud, plus il y a de pluie.
Voilà, plus il y a de pluie, elle n'est pas nécessairement distribuée suivant les mêmes moments que nous la connaissons aujourd'hui. Mais globalement, la machine hydrique de la Terre va s'emballer, va aller plus vite. Donc on évapore plus, on pleut plus et le cycle s'accélère. Donc, si vous voulez, on n'est pas en train de se diriger globalement encore vers un épisode de terre asséchée, de terre sèche.
C'est important de le dire, de le préciser.
Oui, tout à fait.
Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette zone où il va pleuvoir de plus en plus va être décalée de plus en plus vers le nord, en fait.
Oui, il semble que sur l'hémisphère nord de la planète, les zones climatiques que nous connaissons actuellement vont se déplacer un peu vers le nord. Ce qui veut dire que, si je pars de l'équateur, les zones au nord des tropiques, c'est-à-dire le Sud-Sahara, vont recevoir un petit peu plus d'eau, par exemple, pour parler correctement, au Niger, au Sénégal, au nord de la Côte d'Ivoire, il pleuvra plus. En revanche, vers l'Algérie, vers le nord du Sahara, eh bien, cette zone climatique désertique va remonter et on donc rendre des problèmes d'eau qui vont arriver jusqu'à la Méditerranée, c'est-à-dire jusque probablement en France du Sud. En France du Sud, on s'attend, dans les 50 ans qui viennent, à avoir un climat un peu plus sec que celui que nous connaissons actuellement et un climat plus sec en été.
Et qui s'arrêterait à où alors cette frontière ?
Alors la frontière serait à peu près à Lyon, en France. Et au-delà de Lyon, c'est-à-dire vers le nord, eh bien au contraire, il serait plus humide, avec des pluies probablement un peu plus importantes en hiver qu'en été. Le problème, c'est que la position de cette frontière, que j'ai dite être à Lyon, eh bien, c'est Lyon plus ou moins 1000 km. Donc ça veut dire qu'on est soit entièrement, par exemple, dans la zone où il va faire plus sec, je pense les Français, soit au contraire, entièrement, dans la zone où il fera plus humide. Donc c'est une lacune de connaissance, une difficulté de la prédiction dans 50 ans, qui est liée à des difficultés de modélisation du climat, qui font qu'en fait, on ne sait pas grand-chose.
Avec des étés donc très très chauds et des hivers très très humides. On partirait dans les deux extrêmes.
Très chaud, certainement. Hein. On peut dire que... Alors ça, ce n'est pas d'humidité, hein, je parle de température, vous me dites été très chaud. On peut dire que probablement l'été 2003, c'est-à-dire la grande canicule de 2003, sera l'été normal à partir des années 2030. Et ça veut dire qu'on aura beaucoup plus chaud. Hein. Mais ça ne dit rien sur la sécheresse. On peut avoir des étés chauds et humides, on peut avoir des étés chauds et secs. Il semble qu'on se dirige, au moins vers le sud de la France, encore une fois, j'assiste, il semble, vers une diminution des précipitations en été et des précipitations à peu près normales en hiver. Mais encore une fois, c'est le point le plus difficile que nous avons trouvé dans ces évolutions climatiques.
Et alors, au départ, sur ce rapport, vous êtes attelé à cette première partie, le climat. Vous pensiez que ça allait être votre première grande partie de votre rapport. Et puis finalement, en creusant, vous avez trouvé que la question sous-jacente, c'était la question de la démographie, finalement, qui occupait une place beaucoup plus importante.
Exact. Je vais quand même terminer un petit commentaire sur les problèmes climatiques. Une grande question sur laquelle nous avons eu un déficit de réponse, c'est... Est-ce qu'avec ces changements climatiques, vont se modifier la fréquence des événements rares ? Alors les événements rares en climat, pour nous, c'était les épisodes de sécheresse ou les épisodes de crue. Et là, nous nous sommes aperçus que les scientifiques les mieux armés à répondre à cette question avaient vraiment d'énormes difficultés à dire quelque chose. Donc actuellement, on a beaucoup de mal à dire si oui ou non, on aura tendance à avoir des épisodes secs plus... sec que d'habitude et des épisodes de crue plus intenses que d'habitude. Il semble, mais encore une fois, j'insiste sur le mot semble.
Oui, vous ne savez pas encore.
Hein. On ne sait pas encore. Et je fais une parenthèse, les historiques passés ne disent rien. Par exemple, si on parle des crues, les crues les plus importantes en France se sont produites au 19e siècle. C'est 3 ou 4 crues extrêmement violente de la Loire dans les années 1850-1870, qui reste dans les mémoires. Alors on l'a un peu oublié parce que c'est vieux, ça fait plus de 100 ans. Mais le XXe siècle n'est pas un siècle qui a eu des inondations fondamentales et graves, comme on pourrait le croire. Donc si vous voulez, en regardant sur le passé, on n'a pas de preuves ni d'éléments pour dire « attention, ça va plus mal ». Les Américains sembleraient dire que les ouragans qui frappent la côte de Floride ou du sud des États-Unis, du Mexique, par exemple ce qui s'est passé en Louisiane, hein, à Nouvelle-Orléans...
Avec l'ouragan Katrina.
Voilà. Il semble que la fréquence des ouragans reste la même depuis 100 ans. En revanche, il semblerait qu'ils soient un peu plus intenses et donc plus destructeurs qu'ils ne l'étaient autrefois.
Alors, c'est pas sur la quantité, mais c'est sur la qualité que ça joue.
Sur la qualité. Donc, si vous voulez, là-dessus, on reste sur des grandes incertitudes. C'est possible que le climat augmente la variabilité, mais pour l'instant, on n'en sait rien.
On pourrait peut-être aborder cette question de la démographie, puisque quand on parle des eaux continentales, on arrive petit à petit à parler de la démographie.
Alors là, je fais une parenthèse qui n'est pas de l'hydrologie, mais qui est... Que peut-on dire de la démographie de la planète Terre dans les 50 années qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à 2050? L'objectif de notre rapport était de préciser ces difficultés éventuelles ou ces problèmes de l'eau dans un organisme à un délai assez long, environ 50 ans. Là, les démographes nous disent, écoutez, nous sommes actuellement 6 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est les chiffres les meilleurs que l'on connaisse, et le rythme d'accroissement de la population aujourd'hui est de 70 millions par an. Donc l'année prochaine, il y aura 70 millions d'êtres humains de plus que l'année dernière. Rappelez-vous que nous sommes à peu près 60 millions de Français sur Terre. Donc chaque année, plus que la population de la France arrive. Cette augmentation, d'après eux, est en train de se ralentir. Et d'année en année, on était autrefois à 100 millions par an, maintenant on n'est plus qu'à 70. D'après eux, on devrait arriver à peu près au maximum d'êtres humains sur Terre autour des années 2050. Et le chiffre maximum... serait entre 8 et 12 milliards d'êtres humains sur Terre.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme. Nous sommes 6, nous passerions peut-être à 12, c'est-à-dire qu'on va doubler. Alors, dans nos prédictions, dans nos prévisions, pour essayer de voir comment on va résoudre ce problème, nous avons retenu le chiffre moyen de 9 milliards d'êtres humains en 2050. Et la question que nous nous sommes posées, c'est est-ce qu'il y a sur Terre moyen de nourrir ces 9 milliards de personnes. Leur donner à boire, ça ne fera jamais une difficulté. Il y a beaucoup d'eau sur Terre, et trouver l'eau qu'il faut pour faire boire les gens, c'est pas un problème. On ne mourra pas de soif sur cette planète,
on
mourra...
Dans la conscience collective, on pourrait se dire qu'effectivement, c'est peut-être de l'eau qu'on va manquer, et non.
Écoutez, pour vous donner un ordre de grandeur, nous consommons sur Terre, à l'heure actuelle, à peu près 1100 mètres cubes d'eau par an. Ça, c'est ce que nous consommons les uns et les autres, et ça comprend l'eau que nous buvons, l'eau avec laquelle nous faisons notre toilette, et ça s'en prend surtout l'eau avec laquelle nous faisons pousser les aliments que nous consommons. Sur ces 1100 mètres cubes d'eau par an, eh bien, il y en a peut-être 20 mètres cubes qui sont ceux que nous buvons. Donc, c'est rien du tout. C'est 2%. 2%. Donc, on aura toujours l'eau pour boire. C'est pas un problème. Le vrai problème, c'est l'eau pour faire pousser les aliments que nous consommons.
Pour cultiver.
Alors, à quoi sommes-nous arrivés comme conclusion? Je dis tout de suite le mot de la fin. La réponse est oui, il y a moyen de nourrir 9 milliards de personnes sur Terre. En revanche, ça ne se fera pas à un coût nul.
Il va y avoir un prix à payer.
Il y a un prix à payer énorme. Un prix à payer, je le répète, énorme, pour satisfaire à ses besoins en nourriture en cultivant davantage. Alors, quelles sont les solutions que nous avons examinées? La première que j'élimine tout de suite, c'est le dessalement de l'eau de mer. C'est un leitmotiv qui dit, bon, ben, il manque d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de l'eau salée dans la mer, on va la dessaler, et avec ça, on va irriguer, et on va faire de la nourriture, donc il n'y a pas de problème.
Pour dessaler l'eau, on en reparlera un peu plus tard.
On en reparlera, si vous voulez, pour l'alimentation en eau potable. Mais bon, ça c'est un leurre. Il ne faut surtout pas imaginer que le dessalement de l'eau de mer...
On ne fait pas pousser des plantes avec l'eau de mer.
Avec l'eau de mer, ce n'est pas possible. Pourquoi? Je vous donne un chiffre très simple. Si on met en face des 9 milliards d'individus les 1100 mètres cubes par an dont j'ai parlé qu'il faut, eh bien, si on veut produire l'eau en question pour les 3 milliards de plus qui arrivent de cette façon-là, il faudrait dépenser 3 fois la quantité de pétrole produite aujourd'hui sur Terre, rien que comme quantité d'énergie nécessaire pour dessaler l'eau de mer. Vous savez qu'on cherche à diminuer les consommations d'énergie fossile et qu'on arrive pratiquement dans les 50 années qui viennent, on aura épuisé nos réserves de pétrole.
Donc,
multiplier par 3 la consommation de pétrole, rien que pour faire de l'eau dessalée, c'est absurde. On ne fera pas. Ça coûterait beaucoup trop cher et ça ne permettra en aucun cas de résoudre le problème de la faim dans le monde.
Donc première solution, éliminée.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas irriguer quelques salades ici ou là à des coûts exorbitants pour faire des cultures extrêmement rentables et extrêmement chères, mais ce n'est pas la solution pour satisfaire à la faim dans le monde. Deuxième solution, auquel personnellement je croyais, c'est l'irrigation. Autrement dit, on va construire des barrages, on va faire des périmètres irrigués et on va, avec de l'aspersion dans des zones recevant peu d'eau, les zones un peu désertiques, eh bien on va arriver à produire ce dont on a besoin. Alors, je ne dis pas que c'est impossible techniquement, on pourrait. Il faudrait faire des barrages partout. Rappelez-vous quand même que quand on construit actuellement en Chine le grand barrage, le plus grand barrage du monde, qui est le barrage des Trois Gorges, eh bien, on crie partout au scandale, à la destruction des écosystèmes, au noyage de vallées, au déplacement de millions de personnes qui habitaient dans ces vallées. Donc, ça ne se fait pas non plus sans heurts et sans difficultés. Mais il faudrait multiplier par 10 le rythme actuel de construction de nouveaux barrages et de nouveaux périmètres irrigués pour espérer nourrir 9 milliards de personnes avec de l'eau produite par stockage dans des barrages et irrigation. Or, si on continue le rythme actuel d'équipement, qui est déjà relativement élevé, on ne produira que 10% de la nourriture supplémentaire dont nous aurons besoin en 2050. Donc, c'est pas impossible, mais ça demanderait des efforts financiers et des efforts, je dirais, technologiques et de construction de nouvelles retenues fondamentaux et énormes. Alors, il nous semble que la vraie solution, qui n'est pas une solution sans le coût écologique non plus, c'est pas un avenir rose. Je suis pas en train de faire de dire le monde de demain, il va être rose et merveilleux. Le constat, c'est que la démographie augmente. Le constat, c'est que les gens qui arrivent, eh bien, les gens déjà sur place devraient leur faire un peu de place, leur laisser un peu de ressources pour se nourrir. Donc, la seule façon de faire, nous semble-t-il, c'est de défricher les terres actuellement occupées par des écosystèmes naturels, c'est-à-dire la forêt.
La forêt amazonienne, par exemple,
mais il y en a d'autres. Les prairies, les zones humides, et de faire sur ces terres aujourd'hui occupées par d'autres écosystèmes de l'agriculture.
Guylaine Marcilly, ce que vous nous dites, actuellement on nous montre des images magnifiques de la forêt amazonienne, d'autres écosystèmes qu'on nous dit de protéger parce qu'actuellement justement on est en train de perdre ces habitats et vous nous dites on va tout défricher. C'est assez poignant quand même ce que vous dites.
Oui, vous avez raison, c'est épouvantable. Hein, c'est épouvantable. Mais la question que je vous pose c'est protégeons la forêt amazonienne ou si c'est celle-là qu'on décide de défricher ou d'autres prairies ou d'autres milieux et qu'est-ce qu'on fait? Alors les gens qui arrivent, on les laisse mourir de faim? Quelle est l'alternative? Quelle alternative avons-nous? Je ne me sens pas en mesure de dire, écoutez, on va ralentir la démographie, et au lieu de rester ou de passer à 9 milliards, nous allons, par un tour de passe-passe, convaincre les gens qu'il faut avoir moins d'enfants, et on va réduire, on passera, mettons, au maximum à 7, puisqu'on est déjà à 6,2, et puis ensuite on va réduire. S'il y a un moyen, si quelqu'un sait faire ça, très bien. Mais les gens qui nous disent, protégeons l'écosystème, et surtout, ne défrichons rien, je lui dis, bah, très bien, mais qu'est-ce que vous faites des gens qui frappent à la porte et qui ont faim? On a actuellement, il faut le savoir, nous avons 800 millions de personnes sur Terre qui ne mangent pas à leur faim. Nous sommes 6 milliards, il y en a à peu près un huitième d'entre nous qui ne mangent pas à sa faim, déjà. Et ce chiffre, qui était en train de diminuer depuis 50 ans, depuis 4 ans, il réaugmente. On est passé de 800 millions il y a quelques années, 850 millions cette année. Donc on se dirige vers un monde de plus en plus affamé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se croise les bras et on dit c'est très bien que les gens meurent ou on fait quelque chose. Moi j'aime bien monsieur Nicolas Hulot, si c'est lui dites-vous qui dit qu'il faut protéger les écosystèmes, j'approuve dès demain, mais je lui dis qu'est-ce qu'on fait devant les gens qui ont faim? Alors c'est un problème moral, hein. Est-ce qu'on préfère leur faire la guerre et les laisser mourir ou est-ce qu'on dit bon ben on fait quelque chose? Alors on fait quelque chose, ça veut dire quoi? Ben la seule solution qui nous paraît faisable, c'est et encore un grand coût écologique. On va défricher, on va détruire des écosystèmes existants, on les va remplacer par des écosystèmes artificiels qui sont des terres cultivées sur lesquelles on fera du blé, du riz, etc. Donc on va quand même améliorer les rendements, on va essayer de limiter au maximum, mais on ne peut pas
faire l'économie
de saccager, et j'emploie ce mot volontairement, de saccager un certain nombre de grands écosystèmes pour faire la place nécessaire à l'agriculture si on veut nourrir les gens arrivant sur Terre.
On marque une courte pause, Guylaine Marcilly, on se retrouve tout de suite après. Retour à notre éclairage en compagnie de Guylaine Marcilly, avec qui nous parlons des eaux continentales. Un rapport, Guylaine Marcilly, que vous avez animé, que vous animez peut-être encore actuellement, avec une équipe d'une douzaine de chercheurs scientifiques. Nous venions d'évoquer cette crise démographique, enfin une crise, je ne sais pas encore, mais en tout cas le fait de passer de 6 milliards à 9 milliards d'habitants, qu'il va falloir les nourrir, et que derrière c'est ce problème d'eau sous-jacent, puisque pour les alimenter, il faut donc produire des céréales, produire une alimentation, que cette alimentation a besoin d'eau. Alors, où est-ce qu'on va produire ces aliments? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un continent bien particulier sur lequel on va faire des cultures?
Bon, alors la démographie augmente où? Elle augmente essentiellement en Afrique. L'Afrique va augmenter énormément de population. En Asie, et beaucoup moins en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe. Donc, les besoins seront, la plus grosse concentration démographique est en Asie. Alors, je vous disais, il faut défricher et mettre en culture des terres. L'Asie a déjà défriché. Il n'y a pratiquement pas grand-chose à défricher aujourd'hui, à mettre en culture en Asie. On peut gagner un peu. Mais si vous voulez, l'essentiel des terres cultivables en Asie ont déjà été cultivées. Donc ce n'est pas en Asie que l'on pourra trouver la solution. L'Afrique a des possibilités. L'Afrique a encore beaucoup de territoires qui sont... Alors c'est de la forêt, hein.
C'est la zone tropicale, hein. C'est pas la zone désertique.
C'est pas la zone désertique. C'est dans la zone tropicale qu'il y a moyen d'augmenter les productions. L'Amérique du Sud a d'énormes ressources. Vous avez parlé de l'Amazonie, mais il y a aussi l'Argentine, il y a aussi la Pampa, il y a un certain nombre de contrées d'Amérique du Sud qui peut produire. Et peut-être que le nord de l'Europe et la Sibérie, si les augmentations de température liées au changement climatique permettent d'augmenter vers le nord la zone cultivée, pourra devenir une zone de production. Donc on va se trouver avec un monde dans lequel l'Amérique du Sud, l'Amérique, un peu l'Amérique du Nord, mais l'Amérique du Nord est déjà proche de ses capacités maximales. Le Canada, le nord du Canada, l'Amérique, l'Europe du Nord, la Sibérie et l'Afrique seront éventuellement producteurs et l'Asie va être le continent importateur le plus grand de ces produits alimentaires qu'ils ne peuvent plus produire.
Là où il y aura le plus de population, ce ne sera pas là où il y aura le plus de production.
Voilà. On se dirige vers un monde un peu spécialisé dans lequel certains produisent la nourriture et d'autres la consomment, sachant qu'ils la paieront, on ne sait pas très bien comment, en produisant autre chose. Actuellement, vous savez que l'Afrique importe énormément de nourriture alors qu'elle pourrait éventuellement augmenter sa production. Enfin, pour l'instant, elle en importe énormément et que le quart des budgets des pays africains est consacré en général à l'importation sur les marchés mondiaux de nourriture. Donc, ce qui pose d'énormes problèmes de développement économique. Cet argent qu'ils utilisent à acheter de la nourriture, ils feraient bien mieux de l'utiliser, s'ils le pouvaient, à équiper leur pays, à produire et à diversifier leur production. Donc, c'est un énorme problème économique de savoir comment on va construire un monde dans lequel certains produiront la nourriture, avec tous les problèmes politiques et de dépendance. Par exemple, si celui qui possède de la nourriture dit « Attendez, moi, je ne veux plus vous exporter de blé », il peut obliger le pays qui importe à faire ce qu'il veut. Donc, une dépendance politique de celui qui possède la nourriture à celui qui n'en a pas. C'est très grave. Et beaucoup de pays plaident pour avoir une autonomie et une indépendance alimentaire pour ne pas se trouver pieds et poings liés devant les producteurs. C'est un problème qui est énorme avec lequel on se dirige.
On a parlé du problème de quantité d'eau. Oui. On va parler cette fois-ci d'un problème de qualité. On parle de pollution. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que dans les années 50, est-ce que l'eau était de meilleure qualité?
Alors là, il faut distinguer pays ou zone oui, économique par zone économique. Je vais commencer par, si vous voulez, l'Europe et la France, l'Europe des 12 et puis maintenant l'Europe élargie des 25. Il est clair qu'en France en particulier, si je parle de l'eau naturelle, c'est-à-dire de l'eau des écosystèmes, l'eau des rivières, l'eau des lacs, l'eau des côtes méditerranéennes ou bien de la mer du Nord, eh bien, depuis 50 ans, la qualité des eaux s'est très fortement améliorée. Alors pourquoi? Essentiellement à une loi, qui est la loi de 64 sur l'eau, qui a obligé les industriels, les collectivités locales, c'est-à-dire les villes, à traiter les eaux usées, et à empêcher que l'on pollue le milieu naturel par des rejets soit métalliques ou toxiques par les industries, soit simplement par la matière organique rejetée par les égouts dans les grandes villes comme Paris ou les petits villages. Donc cet effort d'équipement a été fait et a porté des fruits. La qualité des milieux est bien meilleure. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux, mais ça s'est beaucoup amélioré depuis 50 ans. Et surtout, ce qui est satisfaisant, c'est que la communauté européenne a décidé en 2000, c'est ce qu'on appelle la directive cadre sur l'eau de 2000, d'obliger les États membres à améliorer la qualité des eaux, qu'on appelle le rétablissement du bon état écologique des eaux, d'ici 2015. Donc tous les États de l'Europe se sont engagés à améliorer de façon très importante en augmentant le taux de traitement et de raccordement des eaux usées, en diminuant la quantité de produits toxiques rejetés, en essayant de limiter les pollutions agricoles par les pesticides et les engrais comme les nitrates, et de faire que l'état des écosystèmes naturels et l'état chimique des eaux souterraines s'améliore fortement d'ici 2015.
Ponctuellement, on entend parler de pollution, par exemple en Bretagne, on connaît ce problème lié à l'élevage avec l'épandage, où il y a quand même des petits villages ou même des fois des villes où on leur coupe l'eau pendant un certain moment parce que l'eau n'est plus potable.
Oui, vous avez raison. Quand je dis globalement, c'est à l'échelon français. Il y a des points noirs. Et la Bretagne est un, en qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, c'est un des plus graves points noirs que nous avons. C'est ce qu'on appelle les excédents structurels. C'est-à-dire qu'il y a trop d'agriculture et surtout d'élevage en Bretagne par rapport à la surface utilisée, si bien que les produits rejetés par ces élevages, nitrates, les fumiers, si vous voulez, les lisiers que l'on répand sur les champs, eh bien, dépassent les capacités d'absorption du milieu avec des pollutions des importantes. Alors, on sait faire ce qu'il faut. On a mis en place des stations de traitement des lisiers de porc dans les installations agricoles, dans les exploitations agricoles, et on peut résoudre le problème. Ça coûte très cher et il faut le faire. Donc, dans le cadre de cette directive cadre sur l'eau de 2015, eh bien, on peut très bien continuer à équiper les agriculteurs de stations de traitement et rétablir la qualité du milieu. C'est faisable. Et on en prend le chemin. Donc, c'est un problème important. On sait que si on convainc les agriculteurs d'utiliser moins d'engrais, eh bien, on va améliorer la qualité des eaux des nappes. Et comme vous savez que les eaux distribuées en France pour l'alimentation d'eau potable proviennent pour plus de la moitié des eaux souterraines, eh bien, si on améliore la qualité des eaux souterraines, eh bien, on aura un meilleur résultat. Je travaille actuellement avec la région de la ville d'Auxerre, où il y a un projet d'essayer, en concertation avec le monde agricole, de réduire les intrants agricoles, réduire les nitrates, réduire les pesticides, de façon à améliorer naturellement la qualité des eaux et permettre à la communauté des communes de l'Auxerrois, qui s'alimentent en eau dans des nappes souterraines, d'avoir des eaux potables sans avoir besoin de dépenser des sommes énormes à les traiter. Donc c'est une chose faisable si tout le monde se prend par la main et se dit « bon, ben, on va essayer de réduire et d'améliorer la qualité des eaux ». Donc c'est quelque chose que nous faisons, que nous essayons de faire, qu'il faut améliorer, mais sur lequel on voit un peu le bout du tunnel.
Parce qu'il peut y avoir des pollutions pollution accidentelle. Et à ce moment-là, on parle d'auto-épuration, c'est-à-dire que le système, l'eau, fait qu'elle absorbe la pollution, puis finalement, elle va réussir à la nettoyer.
Alors, les pollutions accidentelles, il faut être très prudent. Il faut d'abord définir dans quel milieu on se parle. Si on est dans une rivière, par exemple, il y a un produit qui est renversé dans une rivière, eh bien, on peut avoir une mortalité extrêmement importante et immédiate de la faune, des poissons, etc. Mais dans une rivière, en général, eh bien, l'eau est entraînée, et au bout de quelques jours, eh bien, on a de nouveau un milieu propre parce que l'eau
a
été...
C'est le courant, en fait, voilà.
Si c'est des métaux, qui sont par exemple une pollution métallique, des particules métalliques, eh bien, ces métaux peuvent se sédimenter dans le fond de la rivière et engendrer pendant très longtemps une pollution toxique. Par exemple, dans la Dordogne, vous avez des exploitations minières qui ont fonctionné pendant des dizaines d'années, des exploitations qu'on appelle la vieille montagne, et qui ont rejeté des particules métalliques dans la rivière. Eh bien, toute la Dordogne est polluée, et je dirais pendant 50 ou 100 ans, elle continuera à l'être. Donc ça, c'est une pollution industrielle importante et qui ne se rétablit pas rapidement.
Ou alors, ce sont aussi nos conduites, maintenant qui n'existent plus, mais ou en tout cas, on essaie de plus les faire exister, les conduites en plomb, par exemple, aussi.
Alors ça, c'est le réseau intérieur. Ça, j'en parlerai dans un instant, si vous voulez. Mais sur le milieu naturel, pour l'instant, alors maintenant, si c'est des milieux souterrains, c'est-à-dire que si on répand quelque chose de toxique sur une nappe, ça s'infiltre dans la nappe et en général, ça met très 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 longtemps à être décontaminé. La pollution la plus courante, c'est les hydrocarbures. Parce que les hydrocarbures, on en déplace beaucoup, ils se déplacent en train, en voiture, en wagon, etc. Et surtout, chacun d'entre nous avons souvent des réservoirs de mazout pour chauffer notre maison quelque part. Ces réservoirs finissent par se crever. Donc des pollutions par les hydrocarbures, il y en a énormément. Et cela pollue les nappes pendant très longtemps. La résorption des pollutions par les hydrocarbures est difficile. On essaye de repomper l'hydrocarbure, mais on n'y arrive pas. Et il risque de polluer les nappes pendant des dizaines d'années. Donc c'est pas immédiat. Donc c'est un point important. Les pollutions par les pesticides, par exemple.
Oui.
Nous avons calculé sur le bassin de la Seine que quand on met des pesticides et qu'ils s'infiltrent dans le sous-sol et qu'ils arrivent dans les nappes, même si on l'arrêtait aujourd'hui, il y aura encore des pesticides dans certaines des nappes 50 ans plus tard. Parce que le temps d'écoulement des eaux souterraines est très lent et le renouvellement des eaux souterraines est tellement lent que 50 ans plus tard, eh bien, on a encore des traces.
C'est quand même sur la longue durée.
Très longue durée. La pollution est quelque chose de très long dans les milieux souterrains. Alors, vous me parliez des conduites en plomb. Alors maintenant, on peut peut-être parler de la qualité des eaux consommées par les Français.
Oui.
D'abord, un chiffre. Nous consommons en moyenne, vous et moi, de l'ordre de 200 litres par jour et par habitant, en ville ou même à la campagne. Alors, c'est bien sûr parce que nous buvons. Qu'est-ce que nous buvons? Nous buvons 2 litres par jour. C'est à peu près la consommation moyenne. Mais bon, il faut de l'eau pour faire la cuisine, donc pour faire cuire les patates. Il faut de l'eau pour la vaisselle, pour la lessive,
pour
l'hygiène, pour tout ça, pour nettoyer la maison, pour nettoyer les trottoirs. Donc, dans la ville, quand on parle des 200 litres par jour, il y a une partie de cette eau qui sert à laver les trottoirs devant nous. Donc, c'est pas de l'eau qu'on consomme. Mais bon, alors, cette eau, quelle est sa qualité aujourd'hui? Eh bien, elle s'est aussi très fortement améliorée depuis 50 ans. Pourquoi? Plutôt parce qu'on a mis en place des méthodes de traitement, de filtration, d'épuration, qui sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus onéreuses d'ailleurs, et qui font que la qualité des eaux est devenue meilleure qu'il n'y a 50 ans. Ça, c'est clair. Mais c'est pas véritablement par amélioration du milieu, c'est plutôt par amélioration des technologies de filtration que
nous
utilisons.
Pour les filtrer, pour la nettoyer, pour l'assainir.
Pour l'assainir. Alors, dans les petites communes, je dirais agricoles, où on a en fait des systèmes extrêmement simples. On prend l'eau dans les nappes, parce que l'eau est en général de bonne qualité, et puis on la chlore pour qu'elle soit hygiéniquement éliminée, on élimine toutes les bactéries fécales qui sont toxiques, et puis on la distribue. Alors là, je dirais que c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans ces installations-là, c'est que l'augmentation des nitrates dus à l'agriculture a fait que la qualité des eaux s'est plutôt détériorée. Donc il y a 50 ans, il y avait très peu de nitrates dans l'eau, aujourd'hui il y en a beaucoup. Donc on frise dans beaucoup, vous avez parlé de la Bretagne, mais dans d'autres pays, des régions de France, à cause de l'utilisation agricole des nitrates, eh bien on frise la norme de potabilité qui a été fixée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est 50 mg par litre, et donc on peut dire qu'il y a eu une détérioration de la qualité des eaux depuis 50 ans. Et depuis 20 ans, je dirais que l'arrivée des pesticides sur le marché et l'utilisation, à mon sens extrêmement abusive, des pesticides, vous savez que la France est le premier consommateur de pesticides au monde. On y va de peine de mort. On est les meilleurs dans ce point-là. Alors, on est meilleurs pour l'utilisation de ces produits. On n'est pas les meilleurs pour la qualité des eaux souterraines qui en résulte. Il y a une pollution importante des eaux souterraines par les pesticides que on pourrait, par quelques moyens onéreux, enlever des eaux que l'on distribue. On le fait parfois, mais c'est très cher. Donc, dans beaucoup de lieux, on frise la limite de potabilité à cause de ces pesticides. Ils ne sont pas là partout. Mais je vais vous donner un exemple. Nous travaillons là-dessus à l'Université de Paris 6 où j'enseigne. Nous avons mesuré la quantité de pesticides dans un pluviomètre que nous avons placé sur le toit de Jussieu.
Donc c'est l'eau de pluie, on est d'accord.
L'eau de pluie à Paris.
C'est pas l'eau souterraine.
Eh bien, dans certains mois de printemps, c'est-à-dire en mai, au moment où on cultive du maïs, il y a de l'atrazine dans les pluviomètres sur les toits de Paris supérieure à la norme de potabilité des eaux. On ne pourrait pas boire l'eau de pluie. D'où ça vient? Ça vient simplement que l'atrazine est répandue sur des champs de Paris. Dans Paris, il n'y a pas énormément de cultures de maïs.
Mais oui. Donc
ça vient des territoires autour de Paris. Ça part dans l'atmosphère, ça se fixe dans les nuages et ça retombe.
Ça retombe.
Donc, si vous voulez, on utilise des quantités extrêmement importantes de pesticides et ça produit ces détériorations de la qualité des eaux qui sont extrêmement dommageables. Alors, il faudrait traiter ou il faudrait décider de réduire. Alors, vous savez que l'atrazine a maintenant été interdite, mais on utilise d'autres produits à la place. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la bonne direction en ce qui concerne la protection des eaux vis-à-vis des phytosanitaires.
Pour parler rapidement, ça c'est la situation en Europe et en France en l'espace de 50 ans. Pour ce qui se passe dans le monde, est-ce que pareil, les conditions se sont améliorées ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il y a eu détérioration de l'eau, tout simplement, de la qualité de l'eau?
Alors prenons les pays peu développés, par exemple l'Afrique. La qualité de l'eau en Afrique n'a pas beaucoup varié. Elle est mauvaise dans les eaux de surface, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise du point de vue bactériologique. Il y a des bactéries pathogènes, si bien que quand on prend de l'eau dans des marigots, ce qu'on appelle des petits fleuves en Afrique, hein, ou dans les mares, eh bien l'eau est de mauvaise qualité. Donc là, il y a eu d'assez gros programmes, ce qu'on appelle d'hydrauliques villageoises, qui ont été réalisés en Afrique, qui consistent à faire des puits près des villages, à éviter que les femmes doivent aller chercher de l'eau avec des seaux sur leur tête dans des eaux qui sont de mauvaise qualité. Et donc, il y a une mortalité infantile importante à cause de ça. Donc, on est allé chercher de l'eau dans les puits. Et quand ces puits fonctionnent, il y a des endroits où on les fait, puis ils ne sont mal utilisés ou pas entretenus et ils ne fonctionnent pas. Mais disons qu'en règle générale, quand ces puits fonctionnent, on distribue de l'eau de meilleure qualité aux endroits où ces efforts ont été faits. Le gros problème en Afrique, c'est les grandes agglomérations, hein, ce qu'on peut appeler les mégapoles, les grandes villes qui se constituent dans les pays en voie de développement, dans lesquels les conditions de desserte en eau sont très mauvaises, il n'y a pas d'amenée d'eau correcte. Le plus souvent, l'eau est amenée sur des carrioles et distribuée à des coûts exorbitants en très petite quantité et en mauvaise qualité. Et là, on a une détérioration nette de la qualité des eaux. Ouais. C'est des zones qui ne sont pas assainies, c'est des bidonvilles en fait. Hein. Bidonvilles dans lesquelles la qualité des eaux est très mauvaise et la détérioration de l'état de santé des populations est visible dans ces zones-là. Donc là, on sait ce qu'il faudrait faire. C'est une question économique. Il faut amener de l'eau de qualité, donc traitée, par des conduites, la distribuer, soit par des bords de fontaines, soit dans chacune des maisons, si on peut se le permettre. Et puis ensuite, il faut assainir, c'est-à-dire drainer les eaux usées, collecter les eaux d'aisance, les fosses d'aisance, et puis assainir tout ça. Alors, on s'avançait faire.
Ça a un coût.
Payer. Il faut payer. Et ça coûte environ, si on voulait équiper l'Afrique, l'ordre de grandeur. Il faudrait à peu près 1 000 milliards d'euros. 1 000 milliards d'euros, c'est une grosse somme quand même.
Parce que équiper, on sait le faire.
On sait faire, on a les techniques.
Parce qu'il y a beaucoup de mortalité quand même suite à ces problèmes d'assainissement d'eau. Ça résoudrait pas mal de problèmes, mais après, c'est savoir qui paye.
Voilà, qui paye. Alors les pays africains sont endettés jusqu'au cou, ils n'ont pas les moyens de le faire. Bon, quelqu'un a calculé combien avait coûté la guerre d'Irak. Et avec le coût de la guerre d'Irak, on pourrait probablement alimenter l'eau de l'Afrique. Alors, est-ce que ceux qui ont choisi de faire cette guerre n'auraient pas mieux fait, auraient été mieux avisés de dépenser l'argent à autre chose? Bon, je n'ai pas d'avis politique. Enfin, au moins, si j'en ai un, je le garde pour moi. Donc, si vous voulez, sur ces pays-là, on sait faire. Il y a un problème énorme, hein, un problème de qualité et de distribution. On a les techniques pour le faire. On n'a pas réussi à mobiliser les intentions pour le faire à l'échelle nécessaire. Il y a des gens qui font des efforts. Beaucoup d'ONG, d'organisations non gouvernementales, et s'efforcent d'améliorer les cas en faisant de villageoise en faisant de l'assainissement, tout ça, mais à des échelles qui ne sont pas à l'échelle du problème malheureusement posé. Je passe maintenant à des pays en voie d'industrialisation comme l'Inde et la Chine. Là, la situation est probablement beaucoup plus proche de ce qu'elle était au 19e et au début du 20e siècle en Europe, c'est-à-dire qu'on industrialise à mort et on se préoccupe que de façon très partielle des problèmes d'environnement, donc on pollue. Donc je crois que la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dans les pays comme l'Inde et la Chine est en train de se détériorer très fortement.
En arrière, hein.
Voilà. Ils sont en train de faire ce que nous faisions il y a 50 ans ou 100 ans, hein, et qui a conduit à des qualités des milieux extrêmement néfastes, et sur lequel, petit à petit, depuis 50 ans, nous avons repris un peu la main. Alors, on leur dit, il y a des conversations, mais ils nous disent, attendez, nous, on est dans une phase de développement, et puis
il faut qu'ils rattrapent leur retard industriel qu'ils arrivent d'ailleurs bien à rattraper. Hein, mais
Un coût environnemental important, hein, avec détérioration de la qualité des eaux. Parlons un instant de l'air. La qualité de l'air en Chine est épouvantable. La qualité de l'air à Pékin est catastrophique, hein, et ils le savent bien, tout le monde le sait bien. C'est lié à la combustion du charbon, des hydrocarbures, etc., l'absence de filtres, tout ce que vous voulez. Donc, on pollue l'environnement dans ces pays en voie d'industrialisation. On le sait, on le fait, parce qu'on passe avant cela le développement économique.
On marque une deuxième courte pause, Guylaine Marcilly, on se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission.
« Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Retour à notre éclairage en compagnie de Guylaine Marcilly, hydrologue. Guylaine Marcilly, vous avez travaillé, vous avez mis en place et dirigé de 89 à 99 le groupe du CNRS Pyrénées-Seine. Vous pourriez peut-être nous dire en quelques mots en quoi ça consiste.
Oui, le Pyrénées, c'est le programme interdisciplinaire de recherche sur l'environnement du CNRS. Et ce programme, qui avait vu le jour dans les années 80, a lancé des programmes grands fleuves. Pour essayer de comprendre l'environnement des grands fleuves. Donc il y a eu un Pyrénées-Rhône, un Pyrénées-Alsace, un Pyrénées-Garonne et en particulier un Pyrénées-Seine que nous avons mis en place en 89 pour étudier un peu les problèmes d'environnement et de qualité des eaux dans le bassin de la Seine.
Dans ce cadre-là, ce groupe a mis en évidence qu'il y avait une sorte de pollution nouvelle, pollution émergente, qui est une contamination des eaux par les antibiotiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots quand même, parce que c'est pas anodin?
Alors, c'est pas nous qui l'avons mis en évidence. C'est une chose qui est connue de nombreux chercheurs. C'est que si on prend un verre d'eau de Seine, par exemple, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a dedans pas mal d'antibiotiques.
Alors, est-ce que c'est dû au fait que les Français consomment beaucoup d'antibiotiques?
Oui, il y en a plus en hiver que quand on tombe malade et qu'on prend des antibiotiques qu'en été. Donc il y a une partie des antibiotiques qui viennent de la consommation des malades et donc des rejets soit directs dans les égouts, soit des hôpitaux. Beaucoup de grands consommateurs d'antibiotiques sont à l'hôpital. Donc ça revient dans les urines et ça passe à travers les stations de traitement et ça se retrouve dans les eaux. Ça c'est un premier type de producteur. Le deuxième c'est l'agriculture, ou plus exactement l'élevage. Il faut savoir que dans l'élevage des bovins, des porcins, même des volailles, même des poissons en rivière, les élevages artificiels de truites, eh bien, on donne des quantités phénoménales d'antibiotiques à ces bestioles pour, d'une part, les protéger contre les maladies, à titre préventif, et puis on s'aperçoit que ça améliore leur croissance, c'est-à-dire qu'elles produisent plus de chair plus vite. Hein, donc c'est rentable pour l'agriculteur, on leur donne des antibiotiques.
On les pique et puis voilà,
c'est
on
un
a
peu comme les hormones de croissance
plus,
pour le veau, là, vous savez, qu'on a interdite maintenant. Bon, c'est la même chose, on donne des antibiotiques. Alors ces antibiotiques, ils passent dans la rivière et on les retrouve. Il faut savoir qu'aucun antibiotique n'est épuré par une station de traitement des eaux, que ce soit une station de traitement d'eau brute ou d'eau potable ou d'eau usée, il passe à travers.
Hein. Malgré toutes les techniques qu'on connaît.
On pourrait, je pense que si on voulait absolument enlever les antibiotiques, on pourrait mettre au point des filtres, des ozoneurs, des techniques qui les éliminent, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc on en retrouve dans l'eau.
Donc dans ce verre d'eau que je viens de tirer du robinet, il y a à l'intérieur des antibiotiques?
Il y a des antibiotiques en quantité, hein, mais il y en a. Est-ce que ça a des conséquences pour la santé?
Voilà, c'est la suite.
La première qu'on peut se poser, c'est que, d'abord, ces antibiotiques sont présents dans le milieu, donc les bactéries pathogènes que ces antibiotiques sont censés combattre, eh bien, se trouvent en contact avec ces antibiotiques et petit à petit développent des caractères de résistance aux antibiotiques. Donc le fait d'avoir des antibiotiques partout, c'est favorable au développement de bactéries résistantes. Donc c'est pas une bonne idée. Hein. Donc on développe nous-mêmes les bactéries qui vont être résistantes aux antibiotiques qu'on a. Alors heureusement, on s'en sort aujourd'hui en ayant de nouveaux antibiotiques qui n'ont pas encore été répandus dans le milieu.
Les laboratoires pharmaceutiques sont toujours en train de créer de nouveaux médicaments.
Toujours. Pour l'instant, ils ont un peu cessé de faire des recherches sur les antibiotiques. On vit sur un certain stock d'antibiotiques et parce que ce n'est pas très rentable, les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas actuellement de gros programmes de recherche d'antibiotiques nouveaux. Enfin, on pourrait en relancer. Enfin,
pour l'instant, on s'en sort comme ça. C'est en train de nous faire
peur, hein. Oui, non, mais les vrais problèmes sont les maladies nosocomiales. Vous les connaissez, c'est les maladies qu'on attrape dans les hôpitaux. Oui. On a encore un stock d'antibiotiques qui arrive à éliminer tout ça. Mais bon, il y a un problème de cette nature. Alors nous avons regardé un peu comment se développent ces antibiotiques dans les eaux. Est-ce qu'ils s'éliminent peu à peu? Est-ce qu'ils se dégradent? Est-ce qu'ils sont consommés par d'autres microbes, etc., que d'autres bactéries? Et nous sommes en train d'essayer de faire le point sur comment ils se comportent dans le milieu naturel et voir si, en quelque sorte, ils s'éliminent. Alors, on en trouve partout. Nous ne sommes pas médecins, mais il y a des médecins qui commencent
qui travaillent dessus
à s'intéresser à est-ce que ça a un effet sur la santé. Probablement que non. Pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est tout nouveau. C'est des doses infimes, il y en a très peu. Donc on ne pense pas que c'est un effet aujourd'hui sur la santé. Je ne pense pas que vous deviez vous abstenir de boire votre verre d'eau du peur de la présence d'antibiotiques dans l'eau.
Est-ce qu'au fil du temps, ces antibiotiques, même en infime quantité dans mon verre d'eau, est-ce que au bout de, je ne sais pas, moi, au bout de 50 ans, je retrouve mon verre d'eau, est-ce qu'il y aura toujours cette même quantité d'antibiotiques?
Pour ami, j'en sais rien.
Est-ce
pour 50 ans.
Est-ce que ça sera dégradable ?
Oui, ce sont des produits biologiques, donc au bout d'un certain temps, si on les laisse dans la nature, elles finissent par être biodégradées. Ce ne sont pas des produits permanents et pérennes. Maintenant, la question dans 50 ans, elle sera, il y en aura si on continue à en utiliser et à en déverser dans le milieu naturel.
Oui.
Pour faire une anecdote, c'est un peu scatologique, excusez-moi, mais les Allemands ont développé des cabinets spéciaux dans lesquels on collecte différemment les urines et le reste. Et les urines qui sont en faible quantité, c'est là que se concentrent les antibiotiques, c'est pas dans le reste. Donc si on peut éliminer ces urines de façon différente, par exemple en les évaporant, en les faisant brûler, ben on élimine le problème. Donc il y a des techniques que l'on pourrait développer d'éviter, au moins pour les produits humains, de rejeter dans l'environnement ces antibiotiques si on décide de le faire. Mais nous avons étudié ça un peu comme, je dirais, un des médicaments parmi l'ensemble des médicaments qu'utilise la population. Le deuxième indicateur qui est très connu, c'est la pilule. Tous les produits contraceptifs que consomme la population se retrouvent dans les urines de la même façon et retrouvent dans l'eau. Donc dans les rivières, on trouve des quantités notables de produits contraceptifs dont on se demande s'ils n'ont pas déjà un effet sur la faune aquatique.
Sur les poissons,
sur les poissons. Est-ce que la fertilité des poissons ou parfois des maladies que l'on constate sur les poissons ne seraient pas liées à ces médicaments ? Mais il y en a plein, des médicaments, il y en a des dizaines, vous vous rendez bien compte. Donc pour nous, on a choisi les antibiotiques pour commencer à regarder un petit peu. On soulève le drap et on veut voir ce qui se passe. Il y a d'autres produits peut-être plus importants, plus toxiques, plus dangereux qu'il faut regarder. Et il faut peut-être reconsidérer le principe du tout à l'égout. L'histoire du cabinet allemand, c'est un exemple. Mais finalement, aujourd'hui, on dit, tout ce dont on ne veut pas, on le jette dans l'égout. Et puis, il y a une station du traitement au bout.
Qui s'occupe de tout, qui gère tout.
Et voilà. Et c'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être qu'il faut être beaucoup plus vigilant. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait du tri sélectif pour les déchets solides. On va mettre le verre d'un côté, etc.
Ouais.
Peut-être qu'il faut se dire, attendez, ça, c'est beaucoup trop dangereux. On ne va pas rejeter ça dans l'eau. Il faut le stocker ailleurs, l'éliminer d'une autre façon. Et peut-être que nous sommes en train, peut-être aujourd'hui, de vivre sur un concept du tout à l'égout qui a peut-être cessé d'exister. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous remontez aux années 1850-1880, il y avait des hygiénistes qui disaient « Le système du Tougaliou n'est pas acceptable. On va tout rejeter dans les égouts, tout ça va arriver dans les rivières, c'est une catastrophe. » Il y a des gens qui ont, il y a plus de 150 ans...
Quoi, un compost ?
Comment on faisait autrefois on passait dans les rues avec des seaux et on collectait les excréments. Et ensuite, on les faisait sécher au soleil et on les réutilisait en agriculture. C'était ce qu'on appelle la poudrette qu'on fabriquait comme ça. Et on concentrait tout ça et on rejetait pas ça dans l'environnement. Aujourd'hui, non, on collecte tout dans les égouts. On veut rejeter ça dans les rivières en disant « les stations de traitement, de filtration vont nous enlever ce qui est toxique. »
C'est une manière de ne pas trop se poser de questions aussi.
Voilà, c'est une manière un petit peu d'éliminer le problème. Et il se peut, et là je citerai le directeur du SIAP, le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération parisienne, qui dit il faut qu'on révise et qu'on réfléchisse à nouveau à notre système d'assainissement. Donc là, il y a des choses à revoir.
Alors, dans une vingtaine d'années, par exemple, on pourrait de nouveau reprendre nos seaux et se remettre sur les cultures ?
On peut peut-être collecter différemment les différents types d'eau. On peut collecter d'un côté les urines, comme je l'ai dit, on peut peut-être collecter les eaux de douche qui ne sont pas très polluées, on peut peut-être collecter les eaux de cuisine différemment. Vous voyez, on peut gérer nos eaux différemment.
Oui, tout à fait.
Et puis, on peut peut-être dire aux gens, attendez, quand vous avez vidé les dernières gouttes de votre bouteille de produit pour détacher les vêtements, il ne faut pas les jeter dans l'évier. C'est la dernière chose à faire. Vous allez faire des catastrophes écologiques avec ces petits gestes-là cumulés. Quand on casse un objet, il ne faut pas, même si c'est un liquide bizarre, il faut peut-être l'emballer dans un sac en plastique et le mettre dans une autre collecte. Il y a des précautions, si vous voulez, qu'il faut peut-être amener et ne pas considérer que l'égout et l'évier, c'est l'endroit où on peut jeter n'importe quoi et les vieux médicaments et les produits toxiques et les choses comme ça. Donc ça, c'est une culture qu'il faut éliminer. Mais pour pouvoir le dire et le convaincre, il faut commencer par examiner ce qui se passe aujourd'hui. C'est donc cette démarche-là que nous avons prise, c'est de voir ce qui se passe avec des produits un peu bizarres, comme les antibiotiques qu'on retrouve dans l'eau. Je ne pense pas que ce soit un problème préoccupant et qu'ils disent « Attendez, oh là là, le verre est dangereux, il ne faut pas boire l'eau parce qu'il y a tel et tel produit dedans. » Si vous voulez, la meilleure preuve, c'est que l'état de santé de la population s'améliore d'année en année, la durée de vie des Français s'améliore. Si nous étions en train de dégrader notre environnement de façon grave, on le verrait par un état de la santé. Les Chinois le voient très bien. La dégradation de l'environnement en Chine se mesure par une dégradation de la durée de vie des gens, parce que l'air est pollué, l'eau est polluée, donc ça se voit.
C'est un ensemble.
Donc nous, ça s'améliore, donc il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, il y a des précautions qu'il faut prendre et c'est pour ça qu'on fait des recherches et qu'on essaie d'étudier.
Alors, juste pour les deux dernières minutes de notre émission, Guylaine Marcilly, revenir très rapidement sur une autre recherche ou une autre étude, vous me direz ça, quel est le mot approprié, du groupe Pyrène-Seine, c'est la désinfection des eaux usées par les UV, qui là aussi peut paraître un peu incongru. Les UV, on pensait que c'était pour bronzer.
Alors les UV, c'est des rayonnements naturels du soleil, mais on sait les fabriquer avec des lampes spéciales, comme vous dites, on peut les utiliser pour bronzer, et on sait depuis très longtemps qu'on peut désinfecter des eaux, non pas des eaux usées, mais des eaux potables, enfin des eaux qu'on veut rendre potables, en les irradiant avec des rayons UV, et on tue les bactéries. Donc c'est un moyen de tuer les bactéries. Alors le problème nouveau que vous citez, c'est le problème des eaux usées. Les eaux usées, c'est donc les eaux d'égout, donc les eaux collectées dans les chasses d'eau, tout ça, qui arrivent dans les stations de traitement des eaux. Alors on les traite dans les stations, mais ce traitement conduit à enlever la matière organique, enlever parfois l'ammoniac, enlever les nitrates, enlever parfois le phosphore, mais toutes les bactéries fécales, qui sont des bactéries toxiques pour l'homme, c'est des bactéries qui sont mauvaises, qui peuvent nous donner des coliques, eh bien, toutes ces bactéries pathogènes traversent la station sans problème, et elles ressortent, elles se retrouvent dans la rivière. Ce qui fait qu'on ne peut pas se baigner aujourd'hui dans la Seine, essentiellement à cause de son niveau élevé de contamination bactérienne. C'est vrai aussi sur certaines eaux côtières, en mer du Nord, en Méditerranée, à cause des rejets des stations, des villes balnéaires.
Ou tout simplement là où se jette la Seine.
Voilà. Donc, l'idée, c'est, est-ce qu'on pourrait pas tuer ces bestioles, tuer ces microbes, tuer ces bactéries avec des rayons ultraviolets, et donc avoir des eaux usées sans microbes, et donc d'améliorer très fortement la qualité des eaux. Alors c'est un problème de recherche, et nous, ce que nous avons montré, nous avons regardé deux choses. Premièrement, ce qui est bien embêtant, c'est qu'on les maltraite avec des UV, ces bactéries, et puis si on les laisse quelques jours, eh bien, elles recouvrent, elles se rétablissent, elles reviennent
en vie. Elles ont ce pouvoir de revenir en vie.
Immédiatement après le passage sous l'ampoule, elles prétendent être mortes, c'est-à-dire que si on les mesure, on n'en trouve pas.
Mais elles font semblant.
Elles font semblant, voilà. Et en fait, elles doivent être un peu groggy, si vous voulez. Et puis ensuite, au moins dans quelques expériences que nous avons faites, on retrouve qu'elles se récupèrent et elles reviennent. Donc dans la rivière, elles seraient très bien, et hop, elles repartiraient. Donc c'est dangereux. Donc on va dire aux gens, voilà, pas de problème, on les a tuées, et puis en fait, elles revivent, donc c'est pas bien. Deuxièmement, on constate que dès qu'il y a un petit orage dans la région, dans une ville, eh bien, les eaux usées par terre qui circulent sur les trottoirs sont très polluées aussi, par les crottes de chiens, par tout ce que vous voulez, par les bactéries naturelles de la ville, si bien que le moindre petit orage va rejeter des quantités extrêmement importantes de bactéries directement dans la rivière qui, elles, n'auront pas passé sous la lampe UV. Donc on risque de faire croire aux gens que tout va bien, qu'on peut se baigner dans la rivière, et puis à midi, vous allez vous baigner, à 3 heures, il y a un gros orage qui arrive, et tout à coup, la quantité de bactéries va être multipliée par 1 million dans la Seine, et va devenir dangereuse.
Donc, c'est de l'ordre d'un million.
Ah oui. Ah oui, les quantités de bactéries, ça peut passer de 1 à 1 million en quelques heures. Hein, parce qu'on en rejette énormément et le lessivage des rues et même des sols agricoles emmène des bactéries dans les eaux. Donc cette idée, il faut la creuser, mais je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va mettre en place une stérilisation des eaux usées parce qu'on ne traiterait qu'une des parties du problème et l'autre partie, c'est-à-dire le ruissellement, on ne voit pas très bien comment on pourrait l'aborder.
Merci Guylaine Marcilly de nous avoir accordé tout ce temps, cet éclairage sur les ressources en eau, les eaux continentales, les problèmes d'alimentation, de quantité, de qualité, de pollution. Et nous avons terminé sur les UV. À une prochaine fois, j'espère, pour
merci
un autre éclairage.
Et merci puis, de votre intérêt
merci,
pour ce sujet.
Merci aux auditeurs, internautes de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel éclairage. Merci beaucoup, au revoir.